RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story, la radio et la télé. On attaque la deuxième heure des GG avec Joël Dagosséry, la coach de vie, Bruno Poncet, le cheminot, et Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie. Les grandes gueules seront rejoints par Karine Lemarchand. Tout à l'heure, à 11h, la productrice, animatrice, viendra nous présenter son documentaire « Les nouveaux Français, 100 ans d'immigration ». C'est ce soir à 21h10 sur M6. Dans des temps de crispation où l'immigration devient un sujet de polémique politique, Karine Lemarchand a voulu montrer le versant positif de l'immigration, ce qu'elle avait apporté à la France. Comment, après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 70, on a fait venir des milliers et des milliers d'immigrés pour aider à la relance du pays. Comment les guerres ont aussi poussé des immigrés et nos voisins d'Espagne et du Portugal sur la route et à venir ensuite en France. Donc Karine Lemarchand face au GG avec Jean-Loup Bonamy, avec Bruno Poncet et avec Joël Dagosséry. En attendant, on va s'intéresser, alors là je compte sur les Grenoblois pour nous appeler, à ce qui s'est passé à Grenoble dans le week-end. En particulier vendredi après-midi, où des individus ont jeté une grenade, un engin explosif dans un institut de beauté. Ça fait 6 blessés légers quand même, dont un enfant. Et alors, cette vidéo, on voit, il se filme hein, en train de lancer l'engin explosif dans l'institut de beauté. Elle a été assortie d'une vidéo de revendication, ou plutôt de menace.
Bonjour à tous, nous sommes les Fennec 38, une organisation criminelle basée à Grenoble. Nous avertissons tous les terrains de Grenoble à partir d'aujourd'hui, 6 février 2026. Tous ceux qui sont loupés avec le patron des Fennec 38 se fera éclater par un soldat de la Fennec. Vous en paierez les conséquences pour les suceurs, c'est pareil. Nous allons tous vous faire exploser, n'oubliez pas. Nous avons des soldats qui aiment la mort comme vous aimez la vie.
Voilà, vous avez entendu, nous avons des soldats qui aiment la mort comme vous aimez la vie.
Oui, il a une grenade dans la main, celui qui parle, et on voit cette grenade qui est ensuite utilisée pour faire exploser cet institut de beauté. Heureusement, il n'y a eu que des blessés légers, mais enfin, il y avait des femmes, des enfants à l'intérieur, hein, c'était en plein centre de Grenoble, l'après-midi de vendredi, avec des mots utilisés pour faire peur, cette revendication, Fennec 38. Alors, il y a plusieurs références, et notamment une référence djihadiste, hein, avec cette phrase, n'oubliez pas, nous avons des soldats qui aiment la mort comme vous aimez la vie. Et c'est ça qui inquiète les autorités, c'est sans doute lié au narcotrafic, il faudra enquêter, avec ces expressions empruntées aux djihadistes, aux terroristes, pour faire peur, pour terroriser donc.
Alors, trois choses. La première chose, la citation, nous aimons la mort comme vous aimez la vie, c'est une citation qui remonte aux origines de l'islam et qui est fondamentale dans l'imaginaire musulman, puisque c'est une phrase de Khalid ibn Walid, qui est le grand conquérant, un Khalid de l'islam, c'est-à-dire qu'après la mort du prophète, et ben justement, il va y avoir une expansion de l'islam par la conquête, et Khalid, qui est le capitaine des armées de l'islam, qui va affronter les empires perses et byzantins, dit ça à ses ennemis, il leur dit, nous avons un avantage sur vous aimez trop la vie, nous aimons la mort comme vous aimez la vie. Cette phrase, elle est régulièrement reprise, aujourd'hui dans un contexte djihadiste, elle a été reprise par Oussama Ben Laden dans une interview et après par Mohamed Merah en France en 2012 au moment de ses déclarations. Bon, ça, c'est la première remarque de mise en contexte. La deuxième, bah, c'est qu'on retrouve, je suis désolé de le dire, le lien entre délinquance et immigration. Parce que Fennec 38, c'est l'Isère, Grenoble, la ville natale de Stendhal. Et Fennec, c'est l'animal, c'est un renard qu'on trouve dans le désert du Sahara et c'est l'emblème national de l'Algérie. Allez les Fennec, hein, c'est l'équipe de foot de l'Algérie. De même que aux Pays-Bas, vous avez la Mocro Mafia, c'est-à-dire la mafia marocaine, ou en France, la DZ Mafia, DZ signifiant El Djezaïr, c'est l'indicatif de l'Algérie. Donc il y a encore une fois, on le sait, un rapport évident, massif, flagrant avec l'immigration. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire que c'est tous les immigrés, mais ça veut dire que là, il y a bien un terreau criminel qui, un milieu criminel qui se constitue sur le terreau de l'immigration de masse. Voilà. Et tout le monde le sait. Bon. Et troisièmement, écoute, aujourd'hui, il y a quand même peu de Français de souche qui sont impliqués dans ces affaires. Il y a une ça veut pas dire que c'est tous les immigrés, mais il y a une surreprésentation des personnes issues de l'immigration dans ces affaires criminelles.
C'est ridicule, plus en pouvoir depuis tout à l'heure. Mais ça, vas-y, continue.
Bon, et enfin, troisième remarque je porte sur le sujet, c'est que visiblement, la France devient un pays d'Amérique latine comme les autres sans le soleil. En une semaine, vous avez une grenade lancée dans un commerce. C'est la deuxième à Grenoble. Il y a quelques mois, il y avait déjà une grenade lancée dans un bar et le maire Éric Piolle avait dit qu'il s'en moquait. Bon, vous avez une magistrate qui a été enlevée et séquestrée, et vous avez un magistrat du Conseil d'État qui, en banlieue parisienne, à Ivry, a été lui aussi attaqué chez lui et séquestré avec sa famille.
Joël,
bienvenue en France.
Mais ça te plaît pas, tu peux la quitter, hein.
Ah bah France, que ce soit les délinquants qui la quittent.
Oui, bien sûr.
Vas-y Bruno, parce que tu disais qu'il était ridicule depuis le premier
jour. Ridicule, parce que moi, pour avoir été malheureusement dans un dossier terroriste, ce sont des Français de souche parce qu'ils sont nés en France. Ils ont grandi en France et ils ont.
Ils s'appellent les Fennec alors.
Là, si tu l'entends parler. Moi, j'ai pas entendu quelqu'un avec un accent et qui bouffe les mots. J'entends quelqu'un qui est très bien éduqué français et qui parle très bien comme un français.
Il s'appelle les Fennec. Pourquoi il s'appelle la DZ Mafia?
Alors, moi, j'imagine évidemment que c'est une allusion à peut-être un pays d'origine de leur chef, parce qu'il parle de son chef, vachement dans le truc. Mais moi, je vois, c'est tellement facile à un moment donné de stigmatiser un pays parce que le mec, il dit fait.
On a stigmatisé personne.
Dis donc, je te laissais causer, dire ta diatribe.
Non, mais il a stigmatisé les délinquants, c'est pas très grave.
Il a surtout fait le lien entre immigration et délinquance, et puis après principalement entre Algérie et délinquance. Moi, je suis désolé.
Il a surtout dit que c'est
pas moi qui m'appelle les Fennec et qui lance des grenades. C'est pas moi qui m'appelle la DZ Mafia.
Moi, je suis pas sûr que les Algériens, que ce soit en Algérie ou ceux qui aujourd'hui vivent en France, soient tellement d'accord avec ce qu'elle fait.
J'ai jamais dit ça.
En fait, quand tu fais le lien entre un pays et puis la délinquance,
c'est eux qui s'appellent les Fennec.
Mais si vous voulez toujours contredire, vous avez raison. Vous avez raison, mais c'est vrai que bon ami depuis ce matin.
Pourquoi ils s'appellent les
Fennec? Moi, je viens de te le dire. Je pense que c'est en lien avec leurs origines.
Merci.
Oui, mais je suis désolé. On peut pas toujours après dire c'est les origines et après dire tous ces gens de faire du lien avec le pays.
Ce qui est intéressant.
Arrêtons.
Toi,
mais c'est eux qui font le lien. Mais ils font le lien, mais.
Non, mais ce qui est plus intéressant, c'est que c'est la façon dont aujourd'hui ils utilisent les réseaux sociaux pour revendiquer sans doute des règles. Il faudra voir d'ailleurs de quoi il s'agit. C'est peut-être des règlements de compte. Alors, il dit en fait qu'ils ont pas été bien traités, c'est ça.
Leur chef a été maltraité.
Voilà, a été maltraité. Alors, c'est un chef, il a été à l'Institut de beauté, je sais pas, on lui a fait ses ongles, ça a raté. Et donc, il se venge. Mais il utilise la diatribe djihadiste. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
C'est la même sociologie. Ça se recrute dans le même public.
Par contre.
Dans les mêmes quartiers.
Par contre, encore une fois. Au lieu d'aller dire c'est de l'immigration, moi je peux te garantir si ses arrière-grands-parents sont arrivés en France dans les années 30, son immigration à Tombalo, le mec c'est un Français.
Je dirais plutôt ses parents dans les années 90.
Je crois pas parce que c'est.
Et je dirais même qu'à mon avis, il doit être binational.
Bien sûr. Non mais là je vais te dire un truc.
Comment
tu sais ça? Et deuxièmement, moi je te le dis, moi je te m'excuserai, mais moi dans le dossier que je connais très bien, les mecs ça faisait plusieurs générations qu'ils étaient en France et je peux te garantir, ils avaient fait les mêmes études que toi, ils avaient été au lycée comme toi,
ils avaient l'école normale.
Voilà, ouais, ils avaient fait l'école normale.
Je pense qu'ils n'avaient pas été aussi loin.
Alors non, c'est quand même dommage d'aller aussi loin pour dire autant de merde, en plus non factuel.
Alors, je vais dire quelque chose. Là, il y a 15 jours, Joël nous disait que dans différents domaines, et notamment pour lutter contre les discriminations, elle était pour les statistiques ethniques et qui ne reposait pas justement sur des critères purement administratifs. Je demande pour ces histoires de narcotrafic ou d'engins explosifs lancés, puisque Joël nous disait qu'elle était pour les statistiques ethniques, faisons des statistiques ethniques et nous verrons bien. Et peut-être que, en effet, c'est toi qui
Faisons-le, on verra la part.
Sur tous les pédophiles qui tripotent des gamins.
Oui,
ça sera pas mal.
On en fera aussi.
Et puis tous les gens
qui ça te gêne pas sur ça.
Moi, je voudrais bien qu'on fasse des trucs sur toutes les écoles catholiques qu'on a tripoté des gamins.
Là, ça te gêne pas.
Là,
on peut essentialiser.
Mais lui, il essentialise sur l'Algérie, c'est quand même pas.
J'ai jamais essentialisé, j'ai jamais dit que c'était tous les Algériens.
Tout le monde l'a entendu.
Mais faisons-le, ces statistiques ethniques, comme ça, pour avoir la part des Algériens qui est. délinquante et la part qui va au boulot tous les matins.
Oui, mais je suis d'accord avec toi sur ça.
Qui va créer de la richesse.
J'ai jamais dit le contraire.
Qui contribue.
Dans les centres de rétention, il y a majoritairement les Algériens.
J'ai jamais dit le contraire.
Attention.
Encore une fois, je veux connaître la part. Et toi, tu as dit l'immigration. Tu n'as pas dit, tu n'as pas cherché à délimiter.
Mais est-ce que vous trompez pas de cible, en fait?
Première chose que j'ai envie de dire, c'est quand même ce sentiment d'impunité pour pouvoir, en plein après-midi, un samedi, lancer une grenade, faire une vidéo de revendication et dire que à partir de maintenant, donc en fait, on se projette dans l'avenir.
Il y a un enfant qui est blessé.
Dans l'avenir et on prévient les Français ou l'État, je ne sais qui, qu'à partir de maintenant, c'est nous qui prenons le contrôle de ce territoire. Donc il faut quand même un sacré sentiment d'impunité. Et ça, ce sentiment d'impunité, et même ce que tu dis, c'est-à-dire le fait que qu'ils soient sûrement, je dis sûrement parce que eux-mêmes se revendiquent
c'est eux qui se revendiquent comme ça.
D'origine algérienne, tout ceci est une production française, monsieur.
Oui.
Bienvenue. C'est une production française, le réalisateur est français, les acteurs sont sûrement français.
Rien,
si, c'est une production française.
Je suis d'accord.
Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que il faut être dans un pays qui a institué le laxisme pour que des gens puissent se permettre un samedi après-midi, très fréquenté, faire ça. Donc, c'est pour ça que de dire c'est l'immigration, c'est bien gentil. Moi, je te dis que le contexte et le système qu'on a mis en place permet cela. Et il y a un moment, il faudra arrêter de dire c'est l'immigration, notamment si avec les enquêtes, on voit que ces jeunes, j'imagine qu'ils sont jeunes, sont français et peut-être même de parents français. Il y a un moment où on va devoir se dire c'est une production française. Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'ils n'ont peur de rien.
Oui.
Ils n'ont pas peur de tuer, puisqu'il y avait des gens à l'intérieur. Alors, visiblement, ils voulaient se venger de cet institut de beauté. L'enquête dira pourquoi, mais ils n'ont pas peur d'envoyer une grenade et donc ils auraient potentiellement pu tuer. Il y a un gamin qui est blessé. Heureusement, ce sont plutôt des blessures légères, semble-t-il. Enfin, ça a pu aller très. Donc, il y a l'impunité, mais aussi l'inconséquence, c'est-à-dire qu'ils se rendent.
Et c'est la deuxième affaire de grenade à Grenoble.
Mais comme un gamin de 14 ans qui peut.
Julien, bonjour.
Bonjour,
c'est des milliers. Bienvenue, Julien, ingénieur aéronautique du côté de la Seine-Saint-Denis. Vous en pensez quoi de ce qui s'est passé là? Dites-moi.
Ah bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai du mal à me dire que ça arrive, mais en même temps, je suis pas surpris. Et surtout, ce qui m'emmerde vraiment, c'est que je me dis que ça aurait pu être ma femme avec mes deux enfants qui étaient dans un institut.
Bien sûr.
Et qui n'aurait rien demandé, s'était pris une grenade parce que on a laissé faire ces bandes. Et concrètement, moi, j'en veux à l'État, j'en veux à nos responsables politiques qui nous prennent des impôts à plus savoir qu'en faire et qui ne prennent pas les actes, enfin, qui ne font pas le nécessaire pour pouvoir résorber ça, quoi. Et à un moment donné, les gens, les Français vont se faire justice eux-mêmes. Enfin, moi, je n'arrive pas à penser autrement que si ça avait été ma femme et mes enfants et que ça aurait été une grenade peut-être défensive, donc encore plus violente que ce qui s'est passé là, donc ils en soient décédés, mais moi j'aurais complètement vrillé en fait, et on a laissé faire ça, et l'État laisse faire ça. Moi j'ai grandi dans les quartiers, j'ai vu les quartiers complètement pourrir, je suis franchement excédé, et je vois autour de moi des gens qui le sont tout autant, et à un moment donné, faut pas s'étonner qu'on ait le Front National, enfin le Rassemblement National qui monte autant, qu'il y ait tous ces sujets d'insécurité qui sont démontrés dans les sondages, où les Français se sentent de moins en moins en sécurité, et ainsi de suite. J'en ai même pas mes mots, alors que d'habitude j'y arrive quand même, mais là j'en ai pas mes mots tellement.
Mais justement, Julien, on sent votre exaspération face à ces faits, mais restez avec nous pour écouter le témoignage d'Adil qui a grandi dans l'Isère. Il est à Échirol maintenant, mais vous connaissez bien Grenoble. Adil, bonjour.
Oui, bonjour les
gars. C'est dingue cette histoire. Est-ce que ça vous surprend ou pas, vous?
Bah écoutez, comme j'ai dit à votre collègue en antenne, ça me surprend oui et non, parce que nous, en tant qu'habitants grenoblois, en fait, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un week-end où il y a un fait divers. Et c'est déjà la deuxième attaque à Grenoble et je suis juste sidéré, j'ai plus les mots. Et en fait, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, les habitants grenoblois ont, entre guillemets, appris à vivre avec cette violence. On est passé des agressions avec arme blanche, ensuite les fusillades, et aujourd'hui on attaque à la grenade. Je trouve ça sidérant, quoi. On est dans une cartélisation de la société. Nos dirigeants ne font rien. On a le maire de notre ville, Eric Piolle, qui en a complètement rien à foutre. On lui a parlé des caméras, il lui a dit qu'il n'avait pas d'intérêt à mettre les caméras aujourd'hui dans la ville de Grenoble.
Lui, il va vous dire que la sécurité publique, c'est l'affaire du ministère de l'Intérieur, c'est pas l'affaire du maire.
Exactement, mais bon, moi je trouve que faut déjà sécuriser sa ville avant de parler du ministre de l'Intérieur.
Et qu'est-ce que vous pensez de cette revendication là? Nous, c'est Fennec 38, on n'a pas peur de la mort,
j'ai vu un peu les vidéos qui ont été relatées sur les réseaux sociaux. Moi, en tant que Grenoblois, en tout cas, je peux vous dire qu'on n'a jamais entendu de pseudo-organisation criminelle comme ça sur Grenoble, un peu comme Marseille, comme on peut retrouver avec la DZ Mafia. Ça m'a étonné, cette vidéo. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou non, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, la violence est bien réelle à Grenoble. C'est plus possible, quoi. Chaque week-end, il y a un fait divers, on se sent plus en sécurité. En plus, si vous avez bien regardé la vidéo, il y avait un enfant de 5 ans qui était dans
l'établissement. Ouais,
c'est sidérant, quoi. Vous vous rendez compte qu'on peut plus sortir avec nos gamins? Ok, on va dans des lieux. Après, les lieux, on ne sait pas par qui c'est fréquenté, on ne sait pas qui est à la tête de ces lieux, qui sont en conflit. Ben, je trouve ça dingue, quoi.
Mais c'est pas nouveau à Grenoble, j'ai envie de dire, parce que il y a tout un passé à Grenoble. Il y a des
mafia vieilles italienne.
La mafia italienne, oui, etc. Il y a des vieilles histoires. Il y a toujours eu à Grenoble une pègre, en quelque sorte. Là, oui, aujourd'hui, elle montre le visage de narcotrafiquant.
Ah mais ça c'est sûr et certain, il y a toujours eu cette violence à Grenoble, il y a toujours eu du trafic, il y a toujours eu toutes ces choses-là.
Du fait de sa situation géographique aussi.
Oui exactement, mais des attaques à la grenade, je ne sais pas si on se rend compte, des attaques à la grenade, c'est du matériel de guerre quoi. Oui. On a banalisé les fusillades, les agressions.
Et puis ils s'en vantent et ils menacent.
Mais c'est ça, ils se filment, ils postent sur les réseaux sociaux, mais c'est sidérant quoi. Franchement je ne trouve pas les mots, et aujourd'hui en tant qu'habitant de Grenoblois, on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Ça fait peur. On peut plus sortir avec nos enfants tranquilles. On peut plus sortir. On a peur d'aller au restaurant, aller manger ou même se promener sans se faire attaquer, agresser. À la grenade, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est fou, quoi. Moi, j'ai plus les mots aujourd'hui.
Adil, je vous remercie d'avoir été avec nous. Vous aussi, exaspéré, à la fois sidéré.
C'était
votre
première
intervention au 32-16. Et apeuré aussi parce qu'il dit on a plus envie de sortir dans Grenoble avec nos enfants.
Mais d'après le ministre de l'Intérieur, tout va très bien, puisque je constate que le ministre de l'Intérieur est dans un déni complet. Tout va très bien, Madame la Marquise.
Il était notre invité ce matin.
Vidéo choc d'une grenade lancée dans le centre de Grenoble. Voilà, on va voir quelles sont les suites de cette enquête, qui est cette organisation Fennec 38, à qui est-elle liée. Est-ce que c'est la guerre des mafias à Grenoble aussi? Et dans un instant, Limoges. Alors là, on est les petits malins à Limoges. On va vous raconter ça. Les petits malins, les étudiants, parce que vous savez qu'il y a le congé menstruel qui a été mis en place, qui pouvait permettre d'avoir 10 jours d'absence sans certificat médical. Ben là, ce sont les étudiants, donc les hommes, qui ont réussi à détourner le congé menstruel et à être absent aussi.
Oui, parce que c'était ouvert à tous les étudiants pour pas stigmatiser.
Chapeau les artistes, c'est au 32-16 qu'on en parlera avec vous, il est 10h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story avec Joël Dagosséré, avec Bruno Poncé et avec Jean-Loup Bonamy. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à ce congé menstruel qui avait été mis en place en octobre 2025. En fait, ce dispositif, il était accessible à l'ensemble des étudiants pour éviter toute discrimination. Et alors là, évidemment, quand vous avez la possibilité d'être absent sans justification, vous vous gênez pas.
Oui, parce que en fait, ce dispositif, c'est pour permettre aux personnes qui ont des règles douloureuses de bénéficier jusqu'à 10 jours d'absence. Alors, d'ailleurs, sans certificat médical. Bon, mais comme on est chez les étudiants, dans ce monde woke, le dispositif était accessible à tous. Parce qu'il faut pas stigmatiser, et notamment pas stigmatiser les personnes en transition de genre. Voilà ce que a précisé l'université. Et du coup, c'était ouvert aux garçons. Eh bien, forcément, certains en ont profité. Il paraît qu'il y a une centaine de jours d'absence qui a été comptabilisée, et des dizaines de jeunes hommes sur les 3 premiers mois ont profité de cette aubaine pour sécher les cours de cette école d'ingénieurs.
Alors, tout était basé, dit la direction de l'université, sur la responsabilité et la confiance. Mais donc, les jeunes, ils se sont dit, Comme moi, d'ailleurs, je suis en transition de genre. Oui, mais... Je vais peut-être prendre.
Pardon, mais je retourne vers Joël. Est-ce que c'est pas finalement insultant pour les femmes? Parce qu'il y a un vrai problème, effectivement, de règles douloureuses et même dans le boulot, c'est parfois très handicapant. Mais là, le fait de dire, on va pas stigmatiser, faut ouvrir ça aux hommes. C'est complètement absurde, mais on aboutit à ce genre de situation.
Sur la question de la responsabilité, faut pas compter sur les jeunes. Moi, je me souviens
quand
la prof, elle avait 3 minutes de retard. Ouais. On se disait, ah, elle est absente, on se barrait.
Ah oui.
Donc c'était l'excuse parfaite. Donc ça, il faut pas compter dessus. Et deuxièmement, j'ai déjà dit ici que les féministes, excusez-moi de dire ça, mais qui sont en soutien total avec avec tout ce qui est comment on appelle ça, transsexuel, etc. Je dis que c'est un braquage. Les règles douloureuses, moi je les connais, j'ai de l'endométriose, donc je sais ce que c'est. C'est au point où tu ne peux pas te lever, c'est au point où t'as mal dans le dos, tu vomis, t'as des migraines. C'est pas une blague, c'est pas un truc juste ah oui j'ai mal, etc. Ce sont des douleurs atroces. Et quand parce que tu ne veux pas faire de discrimination, tu n'oses pas dire que ça c'est pour les femmes. Ça, c'est un truc de femme. Eh ben, tu as, désolé de dire ça comme ça, mais des hommes qui s'engouffrent et qui viennent prendre le peu de choses que tu as réussi à grappiller sur ta condition.
Donc, c'est une insulte aux femmes.
Ben, c'est une insulte aux femmes. Et on ne doit pas soutenir ça. On ne doit pas soutenir ça. Parce que là, du coup,
École de Limoges, c'est
mais
de leur
tant
faute.
Pis pour eux. Et, ou alors, ils doivent revenir à la base et dire c'est pour les femmes. Ce n'est pas une question de discrimination, c'est une question de biologie. Bah, excusez-moi.
Bah, oui.
C'est pour les femmes. C'est pas pour.
Logique,
il n'y a pas de discrimination. C'est une réalité biologique. Donc, à un moment, il faut prendre un
il
peu son
enfant.
Son courage à demain.
Stigmatisation.
Non, il faut arrêter là. Il faut arrêter que c'est.
Donc, il faut le mettre exclusivement pour les femmes et terminer, Joël.
Mais oui, terminé.
Femmes biologiques.
Oui, les femmes biologiques. Oui, mais là comme c'est ça le problème, c'est qu'il dit oui, mais il y a des personnes qui sont en transition de genre, donc on va pas les stigmatiser. Oui.
Alors, en transition de genre, ils ont des règles douloureuses.
Mais non.
Bon,
mais non.
D'accord, merci.
Comme si c'est des femmes qui veulent devenir des hommes, elles restent des femmes parce qu'elles ont toujours leur appareil génital féminin.
Oui, mais on ne parle pas d'elles.
Oui, mais c'est
non,
pas
on
elle,
parle pas d'elles. C'est pas elles. C'est pas elles qui
font
du système.
Olivier dit la discrimination. Je pense que c'était ça qu'ils pensaient quand ils ont dit on ne veut pas être discriminé en fait.
Oui, mais parce que ce sont des hommes qui ont profité. Donc oui, c'est des hommes qui font croire qu'ils deviennent femmes, mais en fait ils profitent du système.
Qui pouvait être dans la discrimination, c'est ça.
Est-ce que toi, si tu étais allé voir le recteur de l'université en disant écoutez, je suis en transition de genre, j'ai besoin de d'avoir
personnellement pour avoir des amis
et toi devant le micro Bruno.
Moi, pour avoir des amis autour de moi qui sont touchés par l'endométriose, je m'amuserais pas avec ce sujet-là en fait. On peut rigoler tout, tu sais que l'endométriose
doit pas être légion
une
quand
des,
même.
Une des solutions pour éviter l'endométriose à des femmes, c'est de leur faire l'ablation de l'utérus. J'imagine
bien que c'est une pathologie. L'endométriose, c'est une pathologie.
Oui, mais dans ce cas-là, des opiacés. Tu dois prendre de l'opium.
Oui, mais pardon. Alors là, dans ce cas-là, même la règle qui consiste à dire, quoi qu'il arrive, vous avez des règles, donc on vous donne sans certificat médical des congés. Je suis désolé, il faut un certificat médical.
Voilà.
Ton médecin doit justifier le fait que les règles sont trop douloureuses.
Faut légiférer comme en Espagne. En Espagne, ils ont mis ça ils ont légiféré et je trouve que c'est très bien. Là, ce que je trouve dingue, moi, c'est qu'une université s'amuse à dire bah, on ne veut pas discriminer, donc on l'ouvre à tout le monde. Non, ce n'est pas tout le monde, c'est aux femmes. C'est aux femmes. Et c'est comme ça, et les femmes. Et en plus, tu vois,
bien
à la
fait
fin,
pour cette école d'ingénieur.
Bah oui, en fait, ils ont déjanté. Et à la fin, tu vois, tu as des piniclés. Mais moi perso, hein, j'aurais été étudiant. Tu m'aurais dit que je pouvais gratter 10 jours. Même pas, j'aurais fait ça. Je trouve que c'est. Enfin, dans ma tête, je trouve que c'est un problème de responsabilité, et puis même de maîtrise de l'intelligence. C'est qu'à un moment donné, tu peux pas jouer avec ce truc-là. C'est un sujet qui est trop important. Aujourd'hui, t'as des femmes qui commencent à en parler, qui commencent à expliquer qu'elles veulent pas avoir d'enfants et tout. Et là, tu t'amuses à dire, bah, je vais prendre 10 jours parce que j'ai le droit. Mais enfin, c'est pas sérieux. Et cette école-là a déjoncté, en fait. Et réellement, et faut arrêter. À un moment donné, faut qu'on reste carré. Ce sont les femmes qui ont un appareil génital féminin qui sont victimes de ça. Et c'est pas, il y a pas d'autres trucs, quoi. Il y a pas d'autres causes et d'autres personnes qui peuvent être victimes de ça.
Jean-Loup Bonamy.
Ouais, alors deux choses. Déjà, moi, je suis tout à fait d'accord avec Olivier. Je trouve très bien en soi qu'il y a un congé menstruel pour l'endométriose, mais il faut un certificat médical. Sinon, toute personne, imaginons même que ce soit strictement réservé aux femmes, c'est 50% de l'humanité, n'importe quelle femme pourrait prétendre qu'elle souffre de ce mal, même si ce n'est pas vrai, pour sans certificat médical, ne pas venir étudier ou ne pas venir travailler. 10 jours par mois, ça représente quand même un tiers du mois, hein, c'est énorme, et potentiellement un tiers de l'année, en plus de tes autres congés. Donc, moi, je suis pour qu'il y ait ce congé médical, mais que ce soit un arrêt médical classique, pour cause d'endométriose, mais que ce ne soit pas sur la base du pur déclaratif. Voilà, sur la base du voilà, qui a un certificat médical comme pour toute pathologie. C'est une pathologie. Il faut respecter les personnes, il faut faire des arrêts de travail classiques, quoi. Voilà, bon. Et deuxièmement, bah, je m'amuse parce que ça fait 40 ans qu'on est obsédé par la lutte contre les discriminations. Bah voilà où on en arrive. On arrive au stade ultime de la décomposition du système, où à force d'être obsédé par les discriminations et d'avoir peur, d'être tétanisé, d'être attaqué à la moindre idée de « Ah, j'ai discriminé », bah évidemment, t'as des petits malins qui n'ont pas d'utérus et qui viennent te dire « J'ai des règles douloureuses. » Et vous allez me donner mon congé parce que transition de genre sur la base du déclaratif. Et donc voilà où on en arrive quand on est obsédé par la lutte contre les discriminations. Oui, et que c'est l'alpha et l'oméga de toute la
est-ce qu'on est obsédé par le genre?
Et par les questions de genre. Et les discriminations de genre.
Mais non, mais parce qu'il n'y a pas de genre. Il n'y a plus de genre. Donc, s'il n'y a plus de genre, tout le monde peut prendre. On met une règle en place et on dit, bah, selon oui, mais, votre responsabilité, mais non.
Non, mais que des militantes, des ultra, on va dire, ou radicales, s'engouffrent dans ce genre de truc, pourquoi pas. Mais qu'une école d'ingénieurs qui est censée être sérieuse à Limoges valide ce genre
parce que dans la société, une partie des cadres de la société sont complètement soumis à cette idéologie et ont peur d'être attaqués de discrimination et de dire vous êtes transphobe.
Oui, est-ce que l'université va oser revenir sur cette
règle
là?
C'est même pas sûr. Oui, mais c'est même pas sûr.
Non, mais surtout,
que non, mais tu as raison. C'est oui, c'est même pas sûr. De se heurter au bureau des étudiants,
bien sûr,
d'avoir
vous
un
vous
mouvement.
Êtes
voilà, c'est ça.
Non, mais à quel moment
quand
tu t'appelles
une irrégularité? Je veux dire, dans ton fonctionnement, il y a bien un moment où tu prends des décisions pour réparer cette irrégularité. Donc, s'ils ont constaté qu'il y avait un dévoiement de cette règle, de cet accord, bah il faut remettre les choses en place.
Oui, mais ils ont trop peur.
Bah ils ont trop peur.
Et trop soumis intellectuellement.
C'est Nicole qui veut réagir, Nicole qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Nicole.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire alors Nicole?
Alors j'ai pas pu entendre tout parce que forcément quand on vous appelle, il faut couper la télé. Donc voilà, moi je voulais juste parler du sujet sur l'endométriose. Mmh. Parce que c'est un sujet qui me semble très important. Je trouve très bien qu'on en parle de plus en plus. Je trouve qu'on devrait légiférer dessus, ça c'est certain. Moi, ma fille est atteinte de cela depuis l'âge de ses premières règles, c'est-à-dire à 11 ans. On a commencé à voir qu'elle avait des douleurs, sauf que comme cette maladie n'était pas encore connue, les médecins très bien formés, ça n'a été reconnu que l'année dernière. Elle a 27 ans aujourd'hui. Donc ça fait 16 ans qu'elle vit avec ça. Ça a amputé sa scolarité.
Ça l'handicape beaucoup?
Ah oui, c'est un handicap, oui, parce que il n'y a pas uniquement pendant les règles que les douleurs se font ressentir. Mmh. C'est au quotidien. Et puis ça peut évoluer en fibromyalgie aussi, faut le savoir.
Et qu'est-ce qu'il y a pour soulager?
Il y a rien. Il y a, on donne une pilule qui coupe les règles, voilà, c'est tout ça. Simplement. Donc elle est comme quelqu'un de ménopausé, voilà, tout simplement. C'est même pas sûr qu'un jour elle puisse.
Mais vous dites, il faudrait légiférer, mais pour faire quoi? Pour dire quoi dans la loi?
Eh bien, pour dire dans la loi déjà reconnaître cette maladie, pouvoir avoir accès à des soins et un dépistage rapide qui ne coûte pas un bras, ça aussi, hein, parce que quand on veut vraiment savoir ce qui se passe, et bien souvent c'est à votre charge. Hein. Il y a une clinique dans notre région ici à Dax, je crois, où on peut avoir une confirmation rapide, mais c'est entre 800 et 900 euros qui n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Je trouve qu'il y a des choses qui sont remboursées par la Sécurité sociale qui sont très bien. Ça devrait l'être. Parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui sont atteintes de ça. Maintenant qu'on en parle, on sait ce que c'est. Peut-être que nous, maman, nous l'avons eu à l'époque, mais comme c'était pas connu comme maladie, ben on n'a pas été dépisté. Mais moi, je vois ce que ça fait sur ma fille.
Mmh. J'aurais une question.
Et même au niveau de la MDPH, c'est pas reconnu. Hein. Donc, alors que c'est un vrai handicap pour moi.
C'est clair.
J'aurais une question à vous poser après ce témoignage. Donc justement, vous décrivez une situation qui est très très douloureuse pour votre fille, oui. À la fois physiquement hein, au sens propre et psychologiquement. Oui. Et donc justement, par rapport à ce qu'on disait, imaginez par exemple, est-ce que vous n'auriez pas l'impression que votre fille serait un peu insultée si quelqu'un, si Olivier par exemple, qui je crois n'a pas d'utérus, venait et disait « Oui, je suis en transition de genre, donc moi aussi, il faut me donner un congé. Et sinon, non, ça serait de la discrimination. Mais évidemment, Olivier qui n'a pas ses règles, est-ce que vous auriez le sentiment que votre fille serait d'une situation ridicule et qui serait insultante pour votre fille?
Non, parce que si médicalement ces douleurs-là étaient reconnues, après tout, pourquoi pas?
Non, moi, mais si c'est Olivier qui vient vous dire qu'il a des règles douloureuses.
Alors attendez.
Pour revenir au sujet, oui.
Attendez, Nicole, je me permets d'interrompre votre discussion parce qu'on a Jean-Pierre qui est en Mayenne, dont l'enfant est en transition de genre. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Et il passe de fille à garçon ou de...
Oui, c'est oui, ça tout à fait, de fille à garçon, oui, tout à fait.
En gardant son appareil génital, donc...
Tout ouais. à fait, voilà. Donc, effectivement, son identité est masculine, carte d'identité est masculine, etc. Mais son corps est resté féminin.
D'accord.
Donc, ben, forcément, il y a ces règles, hein, pas forcément douloureuses, mais ça peut être douloureux de temps en temps.
Et donc il a besoin de ce congé, oui. quoi.
Ouais. Voilà, exactement. Alors, comment on fait? Effectivement, voilà la bonne question, puisque ça pose problème que certains garçons profitent de cette petite faille et autres, alors que le mien est garçon avec un corps de fille.
Mais justement, on ne parle pas de ce cas-là à Limoges.
Si,
parce
c'est
que là,
ça,
non, mais imaginez
ce cas-là, imaginez.
Que c'est un garçon, on réussit à trouver la faille.
Voilà. Oui.
Ouais,
voilà.
C'est un problème.
Mais moi, j'obture complètement que c'est une fille. Moi, mon fils est mon fils.
Oui,
mais ça, il n'y a pas de souci.
Son passé est passé.
Oui, mais Jean-Pierre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la discrimination qui a eu peur à l'école de Limoges, c'est exactement ce cas-là, c'est qu'une jeune fille devienne un garçon, donc après, effectivement, légalement, elle est un garçon, sauf qu'elle a gardé son appareil génital. Et je pense qu'en fait, le sujet, c'est que les autres ont profité de ça. Mais vous avez raison, en fait, à partir du moment qu'on a gardé son appareil génital, on peut être soumis à des règles douloureuses.
Ça prouve, ouais.
Oui, mais à Limoges, il y a ceux qui, comme vous le dites, ont trouvé la faille, et ça, ouais, c'est un vrai problème.
Peut-être dans ce cas-là, il faut simplement imposer un certificat médical.
Oui,
quand tu as un arrêt maladie, il faut un certificat médical.
Ça prouve qu'ils sont pas très regardants à l'université de Limoges.
Ah oui, c'est dès le début cette université.
Non mais surtout,
quand
si moi, je veux le dire, non mais il faut revenir au réel et il faut arrêter de penser qu'un garçon n'est garçon avec un appareil génital masculin et des testicules et pas d'utérus et qui à la base s'appelle Martin puisse nous dire qu'il a des règles douloureuses. Et là, faut lui dire stop, tu arrêtes.
Arrêtons le délire.
J'ai déjà vu en ligne justement des garçons comme tu dis, enfin en tout cas qui sont devenus filles et qui attaquaient des femmes pour maintenir et soutenir mordicus que elles avaient des règles. J'ai elles parce qu'elles sont devenues elles. Elles avaient des règles aussi douloureuses qu'une femme. Mais moi pour moi je me dis mais c'est incompréhensible. Moi qui ai vraiment des règles douloureuses et je vous dis il y a pas de pilule. Je volais les opiacés de ma mère parce qu'elle a des douleurs très fortes. Je lui volais pour me soulager. Donc c'était même pas sur ordonnance parce qu'on n'arrivait rien. Donc quand moi j'entends quelqu'un qui vient me dire ah bah oui moi aussi j'ai mes règles etc. J'ai envie de rire dans les brancards. Hein.
Mais Jean-Pierre je vous remercie. Allez-y Jean-Pierre.
Comment vous réagirez avec mon fils?
Oui, bien sûr.
Mais il n'y a aucun souci. Il a un utérus.
Une femme. Oui, c'est un utérus.
Voilà. Moi, je parle de l'autre côté.
Aujourd'hui, messieurs dames, il faut parler de troisième sexe.
Et du coup, il a changé.
Non, mais il n'y a aucun souci.
Enfin, il a changé de prénom. Pardon, je me mélange.
Maître Indochine.
Dites-moi.
Exactement.
Il s'appelle comment maintenant?
Je vais dire Jean-Pierre comme moi, pareil.
Oui, ok. Non, mais il y a aucun souci parce que votre fils a à l'origine un utérus et a donc des règles, donc il y a aucun souci. Là, le problème, c'est qu'à Limoges, on a des personnes qui n'ont pas d'utérus, qui ont un appareil génital masculin et qui prétendent qu'ils ont
merci
des règles.
Merci Jean-Pierre de ce témoignage. Merci d'avoir été avec nous. Merci aussi à Nicole, étudiant en congé menstruel, qui ont détourné le dispositif. Du coup, est-ce qu'il faut le supprimer? Voyons ce que vous en dites, oui ou non. Oui, 86%. Allez, avec les grandes gueules, dans un instant, la fraude sociale. Attention, Alloc suspendu en cas de suspicion sérieuse de fraude. Mais qu'est-ce qu'une suspicion sérieuse de fraude? Ça, faut le définir. Il est 11h20, vous venez en parler avec nous au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Joël Dagosséry, avec Bruno Poncet, avec Jean-Loup Bonamy. Il est 11h moins le quart. On va s'intéresser aujourd'hui dans les GG à ce que demande Monsieur Farandou, le ministre du Travail. L'ancien patron à la SNCFE de Bruno Poncet.
Un grand homme.
Ministre du Travail aujourd'hui, Jean-Pierre Farandou, qui est favorable, c'est ce qu'il a dit dans le journal du dimanche, à ce que les allocations chômage ou les prestations sociales soient suspendues en cas de suspicion sérieuse de fraude ou de fraude.
Ce qui est incroyable, c'est qu'on se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. Parce que le ministre a pris deux exemples. Tout d'abord, il y a une fraude, visiblement, qui consiste à percevoir des indemnités chômage tout en résidant à l'étranger. Et puis, il y a aussi les pensions de retraite qui continuent d'être versées à des gens qui sont décédés. Bon, et on se rend compte que finalement il n'y a pas beaucoup de contrôle. Et donc là, Monsieur Farandou nous dit voilà ce qu'on va faire. Nos autorités consulaires devront plusieurs fois par an organiser des rendez-vous en présentiel pour s'assurer que les allocataires sont toujours en vie. Ah bah tiens, on n'y avait pas pensé. C'est-à-dire que les gens continuent à toucher mort, donc c'était la famille qui touchait, et on vérifiait pas s'ils étaient en vie. Donc on voit quand même qu'il y a une défaillance totale de l'État dans la façon de contrôler les dépenses sociales qui sont quand même en France très très généreuses et qui coûtent cher à tout le monde. Donc là, Monsieur Farandou a l'intention de taper fort, et dès qu'il y aura des suspicions de fraude, eh bien, à titre conservatoire, il n'y aura plus de versement d'allocation. A-t-il raison ?
Et je ne savais pas d'ailleurs que pour les entreprises, les fraudes aux cotisations aussi, là, il met en place la flagrance, c'est-à-dire le flagrant délit, parce que sinon, tu avais 15 jours. Donc, tu avais les entreprises, elles se barraient avec les cotisations. Ça fait sourire, Joël ? Oui.
Non, mais...
C'est comme ça maintenant.
Alors, je me demande combien
attention,
d'agents...
Attention, on laissera plus combien, rien passer.
Combien d'agents...
La fraude sociale est évaluée à 14 milliards d'euros, je rappelle.
Recruter pour faire tous ces entretiens en présentiel pour vérifier qu'un tel et un tel est bien vivant. Moi, ce qui m'énerve, c'est que quand tu essayes d'avoir la CAF... pour des choses, pour tes droits, hein, pour des
quand
choses.
Quand tu es en vie.
Voilà, quand t'es en vie et que tu fraudes pas et que
machin. C'est plus facilement.
T'as vraiment du mal à avoir un agent au téléphone. C'est vraiment la croix et la bannière. La dernière fois, j'ai essayé pour ma mère à qui on a suspendu les droits et on ne sait pas pourquoi. Et donc j'ai essayé de savoir. Et ben c'est carrément impossible. Il faut aller sur le site web et puis écrire là machin, puis appeler au 36 machin, je ne sais pas quoi, etc. Par contre, là pour contrôler, tout d'un coup. Il y a de la présence humaine.
Bah, y avait pas.
On aurait de la présence humaine.
Il n'y avait pas jusqu'à présent.
Oui, non, mais tout d'un coup, il va remettre de la présence humaine. Donc moi, je suis pour qu'on puisse contrôler notre argent. Hein. Je ne suis pas contre ça. Je dis juste que la présence humaine dans les services publics, ça ne doit pas uniquement se cantonner à l'interdiction, enfin à la répression. C'est aussi pour recevoir les ayants droit tranquillement. Et deuxième chose que j'ai envie de dire, Monsieur Farandou est ministre du Travail. Quand est-ce qu'on me parle du boulot ? Quand est-ce qu'on me parle de comment on va remettre les gens au boulot? Quand est-ce qu'on me parle de comment ça paye le travail? Quand est-ce qu'on me parle de ça? Moi, c'est la communication que j'attends du ministre du Travail. Donc, je suis pour, mais je dis juste que présence humaine, ça, c'est pas que pour la répression.
Jean-Loup.
Non, mais tout ça est encore très intéressant. Bon, je suis désolé, Joël va bondir, mais je vais encore passer pour quelqu'un qui a des obsessions ou des lubies. Mais il me semble, encore une fois, que si on parle d'autorité consulaire à l'étranger, il y a peut-être, encore une fois, un rapport marginal avec l'immigration, puisqu'il s'agit en fait de personnes qui perçoivent une retraite, qui vivent à l'étranger, probablement dans leur pays d'origine.
Ou le chômage aussi.
Oui, ou le chômage, qui éventuellement, soit sont vivantes, perçoivent le chômage, mais travaillent en fait dans leur pays d'origine, et donc ne sont plus du tout au chômage, mais perçoivent toujours le chômage français. Ou alors qui sont décédés, mais c'est la famille qui sur place, je ne sais pas moi, en Poldévie par exemple, en Sildavie et en Bordurie, touche les... Comme ça, on ne dira pas que j'attaque des pays réels. Touche les allocations du défunt. Voilà, donc il y a encore une fois un problème avec l'immigration, c'est la première chose. Et deuxième chose, je serai tout à fait d'accord avec Joël, c'est-à-dire, j'étais à Metz récemment, mais à Metz, j'ai été frappé par la taille de l'immeuble de la CAF. Ah oui. C'est un building gigantesque. Tu vois que l'État ne se préoccupe assez peu de mettre les gens au travail, par contre, c'est devenu une gigantesque machine à distribuer des aides, et ça se voit à la taille des immeubles de la CAF. Enfin, c'est plus grand que le Kremlin.
Alors, il y a aussi un autre
système. C'est plus grand que le Pentagone.
Farandou, il veut mettre un autre système, des systèmes biométriques via le téléphone portable qui permettent d'identifier que la personne qui touche les prestations est bien celle qu'elle prétend être grâce à la biométrie.
Bruno,
j'ai bien peur pour lui que ce soit une idée mornée parce que
tu vas vérifier ton visage.
Parce qu'en fait, il faudrait embaucher des gens.
Comme identité numérique, ouais, existe déjà.
Barrer, hein.
C'est-à-dire que maintenant, pour t'abonner à un site, quand tu regardes, faut une reconnaissance faciale, ça on peut
quel
pas
site,
le mettre.
Tu parles de quel site, Alain?
Les sites X là, aujourd'hui.
Ah, oui, d'accord, c'est ça. Ok,
c'est le système qui a été mis en place par les autorités.
Comment ça marche? Je ne savais pas, moi, j'ai jamais été.
Non, mais comment ça fonctionne?
Non, mais je pense que c'est une idée mornée parce que c'est une idée. Déjà, il faudra embaucher du personnel dans nos consulats et en France.
Si YouPorn le fait, je pense que la CAF peut le faire, non?
On va y arriver. Les autorités ont suffisamment poussé pour le faire.
Mais ce qui est étonnant, c'est que ça fait quand même des années que tout le monde nous parle de ça et que ça n'a jamais été fait. Après, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, vu l'état actuel des finances gouvernement, qui sont prêts à abandonner des projets stratégiques comme des autoroutes ou des lignes ferroviaires, je les imagine pas encore à dire tiens, on va embaucher des gens alors qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Donc je pense
c'est pour
que
faire rentrer de l'argent là.
Si et Farandou dit que on peut rattraper jusqu'à 3 milliards d'euros et peut-être 1 milliard d'euros dès cette année.
Ben j'espère pour lui, hein. Si ça marche, tant mieux, mais moi j'y crois pas trop. Et puis surtout, enfin, faut que ça soit acté ou pas. En fait, tu peux pas avoir des suspicions. Dans la vie, c'est pas de suspicion. On n'arrête pas de dire qu'il faut que les gens sont présumés coupables ou innocents. Là, t'es pas présumé. Donc si tu fais une fraude, bah t'arrêtes tout. Et si t'en fais pas, bah à un moment, faut trouver des preuves. Donc il va falloir embaucher des gens. Moi, je suis pour qu'on embauche des gens. Ça fait des années qu'ils suppriment les inspecteurs du travail. Aujourd'hui, pour être contrôlé chez toi par l'inspecteur du travail, il faut que ton patron il ait demandé un contrôle inopiné. Sinon, il n'y a pas de truc comme ça fait spontanément. Donc, c'est un vrai sujet aussi.
Après, je me souviens plus comment s'appelait le magistrat là, qu'on a souvent reçu.
Charles Pratt.
Charles Pratt. Il a souvent dit, c'est juste une question de croisement de fichiers.
Oui. Aussi. La CNIL nous l'empêche.
Voilà. Il dit, si on croisait les fichiers et si simplement on était un petit peu plus rigoureux, et lui, il dit notamment sur les cartes vitales, il y a plus de cartes vitales que d'assurés sociaux. Voilà.
Mais là dans le texte.
On serait vite fait. Et puis là, tu disais effectivement 14 milliards d'euros la fraude sociale, 52% c'est le travail dissimulé.
Oui, c'est
le travail dissimulé, c'est quoi?
C'est les patrons.
C'est le travail au noir, ça. Ouais, on est d'accord.
C'est les patrons qui ne l'éclairent pas.
Par exemple, le Sénat, donc il y a un projet de loi au Sénat, et c'est la droite sénatoriale qui pousse ça. Ils veulent permettre à France Travail de détecter les lieux de résidence via les relevés téléphoniques. C'est des choses de bon sens, en fait.
Oui, et qu'on ait le droit de croiser les
fichiers. On comprend même pas que ce soit pas mis en place. Enfin, c'est dingue de simplement vérifier si la personne est bien en France ou à l'étranger en train de toucher des allocs qu'elle ne doit pas toucher. C'est tout. Voilà. Il y a pas, à mon avis, c'est même pas idéologique. Enfin, c'est des questions du bon sens.
Ah, non, en même temps,
On a Nadine qui travaille à la sécurité sociale, qui veut intervenir, elle y est depuis 2 ans. Elle nous appelle du Puy-de-Dôme. Bonjour, Nadine.
Ça arrache les
cheveux. Et bonjour tout le monde.
Alors, Nadine, vous entendez la volonté du ministre, qu'est-ce que vous qui voyez ça sur le terrain, qu'est-ce que vous en dites alors?
Eh bien, effectivement, pour être au cœur du terrain, je peux vous garantir que les moyens humains, ils sont là. Et le problème qu'on rencontre surtout, c'est que 80% du travail qu'on fournit, enfin qu'on fait, c'est faire des enquêtes. Parce qu'on reçoit des documents qui sont souvent très mal remplis. Mmh. On va prendre des documents de base qu'on reçoit, les arrêts maladie déposés à l'arrache dans les boîtes aux lettres, sans numéro de sécurité sociale, sans nom, sans prénom, alors qu'on est obligé d'appeler le médecin pour savoir à qui il a fait son arrêt, pour ensuite pouvoir contacter l'assuré, pour qu'il puisse refaire son arrêt. Tout ça, ce sont des tâches qui sont chronophages sur une journée, ce qui fait qu'on croule vraiment sous les papiers, sous la paperasse. Il y a effectivement des économies peut-être à faire, mais pas sur la structure humaine, hein, parce que rien que chez nous, à la CEPAM du Puy-de-Dôme, au téléphone, à répondre au téléphone, il y a 120 personnes pour 4 départements, de 8h à 17h. Pas ouf.
Et pardon, mais avec le numérique, on peut pas faciliter la tâche des agents avec les nouvelles technologies.
Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que tout est mis en place avec le compte Amélie, en fait. Il y a plein d'items qui peuvent être réglés via le compte Amélie, mais pour cela, il faudrait que les gens soient formés. Pour ça. Ouais. Il faut qu'ils puissent user et abuser, par exemple, des antennes France Service qui sont disponibles dans des villages reculés pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre en point directement, en point d'accueil de CEPAM ou de CAF ou autre. Il faut qu'ils puissent aller dans les antennes France Service. Ils peuvent bénéficier d'un visio avec un agent de la Sécurité sociale ou un agent de la CAF pour pouvoir les aider dans les démarches, de façon à éviter la réitération et notamment la perte de temps.
Est-ce qu'il y a un problème de croisement de fichiers, Nadine, ou pas?
C'est un gros problème, je pense, des deux côtés. Nous, on est submergés de papiers qui, pour 80% du temps, sont mal compris, déposés à l'arrache, dans les boîtes aux lettres, sans enveloppe, sans rien. Donc nous, on s'amuse dès 5h du matin pour l'équipe du courrier à faire du puzzle, à savoir quel document va avec quelle demande. On est aussi en train de traiter les écritures manuelles qui aussi peuvent être chronophages. Donc tout ça mis bout à bout sur une journée, au lieu de traiter par exemple 30 dossiers, on va en traiter plus que 15. Donc l'accumulation se fait et les moyens humains on est énorme, comme je peux vous dire, on est que au Puy-de-Dôme. Ouais. Au siège du Puy-de-Dôme, on est déjà 600 personnes juste au siège, sans compter les personnes qui arrivent dans les points d'accueil.
Non, on entend bien le manque de moyens humains et puis il faudrait aussi davantage croiser tous les fichiers, recouper, ça vous aiderait. Merci Nadine d'avoir été avec nous. Merci bien, bonne journée Nadine. Dans un instant, Karine Lemarchand, invitée des GG pour parler immigration.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.